Bonjour à tous, bienvenue sur nos ondes locales de proximité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Martine.
Bonjour Gilliane. De quoi parlons-nous aujourd'hui à nos fidèles auditeurs?
Une balade dans l'histoire de l'allée de Chasles à Bourg-en-Bresse. Bientôt, nous allons pouvoir l'emprunter à pied, puisque son réaménagement se termine. Nous en parlons après avoir écouté la balade des gens heureux par Gérard Lenormand.
Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Nous nous intéressons à l'allée de Chasles à Bourg-en-Bresse. Avant d'avoir été et de redevenir une allée, Chasles a d'abord été un hameau.
L'historien Samuel Guichenon affirme qu'un premier château y a été construit vers l'an 1300. Démoli et reconstruit, il est acquis en 1643 par la comtesse de Morvel, qui épouse Ferdinand de la Baume. Le château appartient désormais à la famille de la Baume de Morvel. La demeure est réaménagée et elle est la plus belle de la province.
Plus tard, vers 1770, la propriété est encore restructurée par les bâtiments et le site paysager. On peut penser que l'allée a été tracée à ce moment-là avec des plantations d'arbres de part et d'autre. Cette allée majestueuse conduit du château à la ville où l'accès se fait par un pont sur la Ressouze, puis la porte de la Halle, l'actuelle rue Charles Robin.
L'allée est tracée à travers une zone humide, le pré des Piles, zone traversée par la Ressouze. Cette rivière court encore librement à travers cette plaine, au gré des circonstances qui modifient ses bras secondaires.
Mais le tracé de l'allée modifie la situation topographique. Pour faciliter l'écoulement des eaux et assainir l'allée, deux fossés profonds sont creusés de chaque côté. Si on regarde attentivement la carte tracée par le comte de Morvel, les eaux de la Ressouze sont alors dirigées vers celle de son affluent, le Dévora, qui descend des bois de Tessonge. Le confluent est avancé de quelques toises pour reprendre une mesure de l'époque, un peu moins de nos 2 mètres actuels. Par la suite, le comte de la Baume de Morvel va connaître une situation difficile.
Il faut déjà dire que le château de Chasles n'est que l'une de ses multiples propriétés. Jérôme Lalande, notre astronome, écrit dans ses anecdotes qu'il se fait construire un hôtel particulier à Mâcon en 1782. Et nous sommes à quelques années de la Révolution. Et le comte se montre plutôt favorable aux aspirations du peuple.
Mais la période est celle de tous les excès. On oublie les bonnes dispositions et on ne voit en lui qu'un aristocrate. Il réside alors à Choisy-le-Roi. Les révolutionnaires l'arrêtent et l'emprisonnent à Paris, au palais du Luxembourg. Il est jugé, condamné à mort pour être noble et guillotiné le 7 juillet 1794 à l'âge de 58 ans. Mais alors que devient le château de Chasles?
Bien, le comte n'a pas de descendants. Son château de Chasles est démoli sous l'Empire, mais l'allée est maintenue avec ses bordures d'arbres jusqu'à l'automne 2023. Elle apparaît majestueuse sur les cartes postales de la Belle Époque. Il semble que les arbres sont alors des platanes. Ils seront remplacés par des peupliers si l'on se fie à des photographies plus récentes. Les archives pourraient peut-être nous le confirmer. Au fil des décennies, la ville s'est agrandie et elle a pris de l'importance par sa position de carrefour de route et de chemin de fer.
Déjà, à la veille de la Révolution, de beaux immeubles ont été construits en son centre-ville. La gare a été édifiée sur le côté ouest et les chemins de fer ont stimulé l'économie locale. Nous sommes alors sous le Second Empire et la ville veut une caserne pour restreindre le logement des militaires chez les habitants et stimuler encore l'économie locale. La ville verrait bien la caserne sur le pré des Piles, près de l'allée de Chasles.
Cela permettrait de rééquilibrer les équipements entre l'est et l'ouest de la ville. Mais l'armée refuse cette proposition. Elle ne veut pas exposer ses soldats au brouillard trop fréquent du bas de la ville. L'armée préfère un endroit plus sain, sur le haut de la ville, donc le plateau de Bel Air. Face à l'intransigeance de l'armée, et pour obtenir une caserne, la ville se résout à transférer son champ de foire sur le pré des Piles. À partir du 1er avril 1864, deux fois par mois, les veaux, vaches, cochons et chevaux seront désormais les nouveaux voisins de l'allée de Challes. Un peu à distance quand même.
L'allée de Challes reste-t-elle une allée paysagère ou des commerces s'installent-ils sur ses abords ?
En septembre 1844, la presse locale annonce l'installation d'une blanchisserie, bien sûr plus moderne que les précédentes. Que disent les commentaires ?
À propos de cette blanchisserie, je cite, « Elle offre, sur les établissements anciens, d'immenses avantages, principalement celui de la propreté pour le linge, lavé dans une eau douce et favorable au lavage, toujours courante et toujours claire, qui laisse un blanc et une odeur agréable. » Est-ce qu'on ajoute une remarque ?
Oui, que l'allée est située en aval de la ville et que donc la Ressouze a reçu les eaux usées de l'Hôtel Dieu et des tanneries. Toutefois, les eaux usées de la ville elle-même s'écoulent majoritairement par le Cône, un autre affluent, qui traverse le centre-ville et se jette dans la Ressouze du côté du pont des Chèvres, en aval de l'allée de Challes.
Cette blanchisserie aura un bel avenir. Elle sera rebrise et modernisée pour s'adapter à l'époque. Bien des Bressans se souviennent de la blanchisserie Millet, active jusqu'aux années 1960. Un autre établissement s'installe à côté de la blanchisserie.
La poterie Chambard, qui se déplace vers 1900 du boulevard de Brou à l'allée de Challes. Les cartes postales anciennes montrent qu'elle avait une importante activité de fabrication et de vente de poteries utilitaires. Elle cesse ses productions après la Seconde Guerre mondiale et se consacre à la revente de poteries durant un certain temps avant de cesser toute activité.
Bon, revenons à la Belle Époque. La prairie située à l'est de l'allée est le lieu d'implantation de la gare des tramways Bourqueville lors de l'ouverture de la ligne Bourg-Tréfort par Jesseron en octobre 1913. La liaison entre les stations Bourqueville et Bourquemaille sera réalisée en 1920 et la ligne franchira l'allée de Challes.
Un an après la gare de tramway, un autre équipement voit le jour, toujours en bordure de l'allée de Challes, le nouveau stade de rugby pour l'Union sportive bressane. Auparavant, le rugby se jouait sur un terrain situé juste en face de l'église de Brou. C'est désormais le stade de l'allée de Challes qui verra bien d'autres sports que le seul rugby. Après la Seconde Guerre, il prendra le nom de Stade Marcel Verchère pour honorer la mémoire d'un rugbyman mort sur le terrain lors d'un choc violent en 1937. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le stade est le théâtre d'un triste épisode.
Cet épisode a son origine à la bataille de Meximieux, fin août 1944. Pour assurer un ravitaillement, un camion de la résistance franchit le pont de Chazet-sur-Ain sous la protection des Américains. Mais avant leur retour, le pont a été pris par les Allemands. Les maquisards ne le savent pas et ils sont tous surpris d'essuyer une fusillade lors de leur retour nocturne. Ce sont les Allemands qui les accueillent.
Parmi les 6 résistants, un est tué, un autre est grièvement blessé. Et les 4 autres sont faits prisonniers comme terroristes. Ils sont d'abord conduits à Villars-les-Dombes, puis à Bourg-en-Bresse, où les Allemands les gardent dans les tribunes du stade de rugby. Après la nuit, au matin du 2 septembre 1944, ils sont conduits au bord de la Ressouze pour être assassinés.
Mais au moment où le premier camarade est abattu d'une balle dans la tempe, Paul Pain frappe violemment son gardien et plonge dans la Ressouze. Il nage quelques longueurs et parvient à se cacher derrière un tas de bois. Les balles de pistolet l'ont seulement blessé au genou. Il rampe pour rejoindre la rivière qu'il emprunte encore pour dérouter les chiens. Il trouve refuge dans une maison qui le prend en charge. L'énergie du désespoir l'a sauvé car, un jour et demi plus tard, la ville est libérée des oppresseurs. les Américains sont définitivement là.
Aujourd'hui, une stèle commémore le sacrifice des résistants. Heureusement, pendant cette guerre parfois fratricide, des initiatives plus pacifiques ont été prises. Pétain voulait régénérer la jeunesse, pas les exercices physiques. Il souhaite aménager partout des stades, mais les finances ne permettent que l'aménagement de quelques-uns, comme celui à proximité de l'allée de Chasles en 1943.
C'est le stade des Brotteaux, utilisé par les élèves du lycée Caria et ceux du centre d'apprentissage du boulevard des Belges. Pour des anciens, c'était le stade Caria, avec sa piste d'athlétisme et ses panneaux de basket.
À cette époque d'après-guerre, la foire exposition se tient entre le champ de foire et l'allée de Chasles, sous deux longs chapiteaux. Des photos aériennes montrent que, progressivement, la foire déborde de plus en plus sur le stade et ce besoin de parking va causer sa perte. Sur ces photographies, on aperçoit aussi les hangars de bois des haras nationaux.
Ces hangars ont été construits pour abriter un hôpital vétérinaire destiné à soigner les chevaux malades de la Première Guerre mondiale. Il fallait les éloigner des écuries de l'avenue de Rosière, l'actuelle rue Maginot, pour ne pas contaminer les chevaux locaux. Ces hangars ont ensuite abrité, chaque année, pendant une période déterminée, les étalons des haras nationaux qui venaient d'Annecy. Les paysans des environs pouvaient amener leurs juments pour des saillies et ainsi espérer avoir des poulains de meilleure constitution.
Nous parlons là d'agriculture. Et c'est lorsque les édiles ont décidé de construire la maison de l'agriculture que le secteur subit une importante restructuration. Les haras nationaux sont déplacés vers le centre hippique des Vennes. Le lavoir et le stade sont supprimés. Sur la place libérée, le pavillon de la foire est construit. Mais plus tard, la foire exposition est déplacée au parc des expositions, situé près de la route de Pondin. Toujours dans ces années 1960-1970, un boulevard est aménagé pour écarter la circulation du centre-ville. Ce boulevard coupe l'allée de Chasles avec, d'un côté, le boulevard Irène Joliot-Curie, une scientifique, et de l'autre, le boulevard André Lévrier, un résistant.
Le site prend un aspect que les anciens ont connu. Aujourd'hui, il est réaménagé dans cet esprit, rendre à la ressource son cours naturel et verdoyant. En réalité, en regardant l'histoire, on offre un nouveau lit à la rivière. Et l'objectif sous-jacent est tout à fait louable. Offrir aux habitants un espace de quiétude où seuls les modes doux de déplacement sont autorisés.
Cette longue histoire de l'allée de Chasles est illustrée sur le site des Chroniques de Bresse, tout comme le futur proche l'est avec des images de synthèse. Nous en avons terminé. Nous remercions Jimmy à la technique et Rémi pour sa documentation. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour une nouvelle chronique du passé. Et nous nous quittons sur une musique de Jean-Philippe Rameau, La danse du grand calumet de la paix, extrait des Indes galantes. Au revoir à tous.